Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, plus de 2 millions de cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 131 000 décès, selon un comptage de l'AFP. Les États-Unis paient le plus lourd tribut avec 28 326 décès pour plus de 637 000 cas. Viennent ensuite l'Italie avec 21 645 morts, l'Espagne 18 579, la France 17 167 et le Royaume-Uni 12 868. Furieux contre le Congrès américain, le président Donald Trump a provoqué hier la stupéfaction en menaçant d'user de pouvoirs constitutionnels jamais employés auparavant pour forcer la confirmation de juges et autres nominations au Sénat, tout en accusant les démocrates de paralyser des mesures d'aide économique. Le Sénat, à majorité républicaine, a le pouvoir de confirmer ou de rejeter les nominations du président à des postes stratégiques. Parmi ces nominations présidentielles en suspens, celle de Michael Pack à la tête de l'agence qui coiffe la voix de l'Amérique, que M. Trump a violemment attaqué en disant « Si vous entendez ce qui sort de Voice of America, c'est dégoûtant. Les choses qu'ils disent sont dégoûtantes par rapport à notre pays. » Dans un email d'encouragement à son personnel, la directrice de la VOA a réaffirmé le travail objectif que la VOA fait tous les jours. Par ailleurs, le président Trump a promis de livrer ce jeudi sa feuille de route pour le redémarrage progressif de l'économie américaine mise à terre par le coronavirus. Il a affirmé aussi que les États-Unis voyaient des signes tangibles de son ralentissement. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti hier que contre le COVID-19, un vaccin sûr et efficace pourrait être le seul outil permettant un retour du monde à un sentiment de normalité, en l'espérant avant la fin de l'année. Lors d'une visioconférence avec les membres africains de l'ONU, M. Guterres a par ailleurs salué les efforts qu'ils font pour atténuer les conséquences de la pandémie, citant l'Ouganda qui a décalé un impôt pour soutenir les commerces, la Namibie qui offre un revenu d'urgence aux travailleurs ayant perdu leur emploi, le Cap-Vert qui remet une aide alimentaire ou l'Égypte qui a réduit la taxation des industries. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires craignent le pire dès début mai à Kinshasa, où l'épidémie de COVID-19 entrera dans une phase de croissance exponentielle et menacera de déborder les hôpitaux. Elle a fait jusqu'à présent 21 morts sur 254 cas confirmés dans le pays, dont 242 dans la capitale. Plusieurs proches du président Félix Tshisekedi ont été testés positifs et d'autres sont décédés, dont mercredi, Mgr Gérard Moulumba, oncle paternel du président et chef de son cabinet civil, selon ses proches cités par l'AFP. Toujours en RDC, 6 personnes, dont un policier lynché, ont été tuées mercredi dans des accrochages entre la police et des adeptes de la secte politico-religieuse séparatiste Bundu dia Kongo, à Boma, une ville portuaire du sud-ouest. Il voulait, selon la police, attaquer et chasser des originaires de la province du Congo central, particulièrement de Boma. La secte veut reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle avant la colonisation de l'Angola au Gabon, avec son chef, l'ex-député Né Mwanda Nsemi, en chassant de leurs terres tous les non-originaires. Au Nigeria, des hommes armés non identifiés ont tué mercredi 9 civils et mis le feu à des maisons dans une attaque contre un village du centre, probablement dans le cadre d'un conflit entre nomades peuls et fermiers locaux, selon la police. La tuerie dans l'état de Plateau intervient dans un contexte de tension accrue entre la communauté locale Irigwe et des pasteurs peuls à cause d'accusations de vol de bétail et de litigation.
La suite de nos informations. Bataille judiciaire au Malawi entre l'opposition et le président Peter Mutharika, dont l'élection a été annulée par la constitutionnelle pour fraude. Les deux parties ont défendu hier leur position en appel, Abdourahmane Dia.
La Cour suprême d'appel de la capitale Lilongwe a entendu toute la journée d'hier l'appel formé par le chef de l'État contre l'arrêt historique de la Cour constitutionnelle. Dès le début de l'audience, l'avocat du chef de l'État a attaqué l'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays. Il n'y a aucune preuve que des voix obtenues par un candidat aient été attribuées à un autre, a plaidé Samuel Tambenou. Dans leur arrêt historique, les magistrats de la Cour constitutionnelle avaient relevé une série d'irrégularités généralisées, systématiques et graves pendant le scrutin. Il y a eu des infractions à la loi électorale, a estimé M. Tambenou. Personne ne se satisfait de procès-verbaux recouverts de typex, a-t-il concédé, mais il faut d'abord examiner si certains votes ont été modifiés. L'avocat du chef de l'opposition a dénoncé les arguments du chef de l'État. Vous ne pouvez pas solliciter la justice en refusant par ailleurs d'obéir à une de ses décisions, a-t-il dit. Les deux parties disposent désormais chacune de 7 jours pour déposer leur conclusion écrite à la Cour suprême d'appel qui rendra ensuite son jugement.
La mission d'appui de l'ONU en Libye a dénoncé hier une escalade dans les violences, dont des actes de représailles dans des villes de l'ouest du pays conquises par les forces du gouvernement d'Union nationale. Les détails avec Jacques Aristide.
La Manul se dit alarmée par l'intensification des combats ces derniers jours, faisant des victimes civiles et pouvant entraîner de nouvelles vagues de déplacements. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre Khalif Haftar, qui contrôle l'est du pays, et le GNA basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de Tripoli. Il a perdu plusieurs villes de la côte occidentale. Dans ces villes reprises par les combattants pro-GNA, la Manul dit être gravement préoccupée par des rapports faisant état d'attaques contre des civils, de profanation de cadavres, représailles, pillages, vols et incendies de propriétés publiques et privées. Elle a dénoncé par ailleurs la libération sans procédure légale de quelques 400 prisonniers. Les forces du GNA ont accusé les pro-Haftar de bombarder la capitale pour venger leur défaite de lundi dernier. Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a affirmé qu'il ne négocierait plus de solution politique avec Khalif Haftar à cause des crimes commis par ce dernier, dit-il.
Le G20 a approuvé hier la suspension immédiate et pour une durée d'un an du service de la dette des pays les plus pauvres, fragilisés par la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 l'ont annoncé dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion virtuelle. Le point avec Eric Manirakidza.
Les pays pauvres n'ont pas besoin de s'inquiéter de faire face à leurs échéances au cours des 12 prochains mois, a déclaré Mohamed Al-Jadan, ministre saoudien des Finances. Il a précisé que le moratoire allait libérer 20 milliards de dollars qui pourront être utilisés à combattre la pandémie dans ces pays aux moyens limités et aux infrastructures fragiles. Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, parle d'un acte de solidarité internationale de portée historique. Dans un communiqué commun, le FMI et la Banque mondiale ont indiqué qu'il s'agit d'une initiative qui contribuera beaucoup à protéger la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes les plus vulnérables. Le G20 a aussi exhorté les créanciers privés à participer à l'initiative. Le FMI a prévenu que le coronavirus provoquerait cette année la plus grave récession économique depuis la Grande Dépression des années 30. Le produit intérieur brut mondial va se contracter de 3% et peut-être même davantage si la pandémie n'est pas arrêtée à la fin juin et si les mesures de confinement devaient se poursuivre au second semestre de cette année.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le tourisme tunisien pourrait perdre 1,4 milliard de dollars et 400 000 emplois cette année en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le gouvernement cherche une garantie de prêt auprès de partenaires bilatéraux pour émettre des obligations souveraines en 2020. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances de la Tunisie affirment que l'économie du pays diminuerait jusqu'à 4,3%, soit la baisse la plus prononcée depuis l'indépendance en 1956. La Banque centrale sud-africaine a réduit ses taux débiteurs à des niveaux records après une réunion imprévue de son comité politique en réponse aux turbulences économiques provoquées par l'épidémie de coronavirus. Elle a réduit son principal taux directeur de 100 points de base à 4,25% et de nouvelles réductions pourraient suivre. La réduction des taux est une réponse à la prolongation du confinement et à son impact sur l'économie. Pour terminer, le PIB de l'Afrique subsaharienne pourrait diminuer de 1,6%, soit le niveau le plus bas jamais enregistré en raison des effets combinés de la maladie et de la chute des prix du pétrole et des matières premières selon le FMI. Mais l'organisation avertit qu'en cas d'une durée plus longue de la maladie et d'une récession mondiale plus profonde, l'économie africaine diminuera de 2,5% supplémentaire cette année. Toutefois, l'Afrique pourrait rebondir et inverser une contraction économique provoquée par le Covid-19 en 2021, mais l'impact va perdurer pendant des années.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Départ le 29 août de Nice et arrivé le 20 septembre à Paris, ce sont là les nouvelles dates du Tour de France qui ont été officialisées par l'Union cycliste internationale. Le calendrier initial qui prévoyait un grand départ fin juin a été bousculé par le coronavirus. Jamais le Tour de France n'est parti aussi tard dans l'été. Depuis sa création en 1903, la période de suspension des compétitions internationales est prolongée d'un mois jusqu'au 1er juillet. Par contre, les championnats du monde sont maintenus aux dates fixées du 20 au 27 septembre et le programme des compétitions reste inchangé selon l'UCI. En football, l'Espérance sportive de Tunis est sortie vainqueur du litige qui l'oppose à la formation ghanéenne de l'Ashanti Kotoko. Le verdict de la FIFA oblige Ashanti Kotoko de verser 240 000 dollars à l'Espérance dans le cadre du transfert d'Emmanuel Clouté. Cette affaire remonte à février 2015. Lorsque le joueur ghanéen a quitté le club tunisien pour rejoindre la formation ghanéenne contre l'avis de ses dirigeants, l'Ashanti Kotoko a jusqu'au 10 mai pour payer son dû à l'Espérance. Le club ghanéen a souhaité que les 180 000 dollars, montant du transfert de Kwame Bonsou, parti d'Ashanti Kotoko pour l'Espérance l'été dernier, soient déduits des 240 000 dollars. En Europe, Anderlecht a repris les entraînements lundi à la stupéfaction de certains médecins et sous le contrôle des règles sanitaires par la police. Le championnat de Belgique est officieusement terminé sur base d'un avis du conseil d'administration de la Pro League. La décision devrait être entérinée par l'Assemblée générale des clubs pro le 24 avril. Anderlecht a toutefois opté pour la reprise des entraînements pour les joueurs le souhaitant. Le virologue Marc Van Rans a qualifié cette décision de légale, mais de mauvais signal dans un pays où le confinement reste la règle dans le contexte de la crise du Covid-19. Pendant ce temps, en Angleterre, l'équipe de direction d'Arsenal s'est portée volontaire pour renoncer à plus d'un tiers de ses revenus au cours des 12 prochains mois. Les joueurs d'Arsenal auraient par contre rejeté une proposition de réduction de 12,5% de leur salaire annuel, préférant plutôt reporter une plus grande proportion des revenus jusqu'à la fin des mesures de confinement. Malgré les inquiétudes financières, le club londonien a confirmé qu'il n'aurait pas recours aux aides publiques et que tout le personnel non-joueur recevrait l'intégralité de son salaire. Les clubs du championnat anglais ont demandé un effort aux joueurs à travers une réduction de 30% de leurs revenus.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les autorités du Congo-Brazzaville ont décrété la gratuité de l'eau et de l'électricité en cette période de confinement, car le pays compte 117 cas de Covid-19 confirmés. Sauf que la gratuité de l'électricité n'améliore pas le service et les populations se plaignent des coupures intempestives de courant dans leurs maisons. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Pour de nombreux Brazzavillois, la gratuité de l'eau et de l'électricité n'est qu'un cadeau empoisonné. Les coupures intempestives du courant rendent insupportable le confinement décidé par les autorités.
Nous vivons cette mesure comme à l'accoutumée d'ailleurs, avec les délestages imprévisibles et incessants qui se sont d'ailleurs accentués pendant cette période.
Nous sommes en train de vivre une situation assez compliquée, avec une électricité qui vous est fournie presque un jour sur cinq. Donc toutes les réserves que vous avez, de nourriture que vous avez faites, se décomposent.
On ne peut pas être satisfait de l'électricité à Brazzaville parce qu'on sait qu'il y a toujours des problèmes. Et combien de fois pendant cette période de confinement, parfois vous avez des émissions à attendre, comme on n'est plus accro à la télé, vous avez des documents à écrire la nuit et bon, brusquement ça va.
Saluant la mesure prise par le gouvernement, l'ancien ministre Alain Akwala nourrit quand même la crainte de rappel de facture une fois la crise sanitaire passée.
Est-ce que l'État aura les moyens de faire face justement à cette gratuité? C'est une responsabilité souveraine. Il ne faut pas que ça soit un report simplement des factures que les populations devront payer. Si la gratuité de l'eau et l'électricité ne puisse pas aboutir ensuite à une espèce de rappel de facture de la part de ces entreprises, c'est une mesure qu'il faut saluer.
Il y a deux mois, le gouvernement avait mis en service à Pointe-Noire une troisième turbine à la centrale à gaz de Djeno pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Brice Makosso, membre de la société civile, s'interroge sur l'impact d'un tel projet sur la vie des populations.
Nous faisons un constat que le gouvernement a suffisamment investi dans les infrastructures électriques, mais que principalement dans les deux grandes villes, qu'il n'y a pas toujours d'électricité. Nous avions investi à peu près 1,5 milliard de dollars pour cette centrale à gaz. Et effectivement, nous nous interrogeons sur l'impact que cela a sur l'économie congolaise et sur la vie des populations congolaises. Et au final, nous demandons un audit.
Jean Adou Ndanga, directeur général de la société Énergie électrique du Congo, justifie les délaissages récurrents dans les villes congolaises.
Mais les délaissages, oui, mais on prend toujours des dispositions. Un délaissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poste est surchargé, on enlève quelques clients pour un temps, on alimente d'autres, et après, on élimine d'autres, et on reste de suite. Donc, il ne peut pas rester 24 heures dans l'obscurité sans électricité. Ce n'est pas possible. Le délaissage, c'est 8 heures. Après 8 heures, si ce n'est pas ça, donc il y a des défaillances.
Avec 117 cas déclarés, 11 guéris et 11 décédés, bilan du 15 avril, le Congo-Brazzaville va poursuivre son confinement jusqu'en fin avril. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Ces derniers jours, plusieurs pays africains ont demandé séparément à la Chine de répondre à leurs préoccupations concernant le fait que les Africains, en particulier dans la ville méridionale de Guangzhou, sont discriminés et maltraités. Ils seraient victimes d'interdictions d'entrée dans des commerces, de placements en quarantaine et de dépistage abusif, après la découverte de plusieurs cas positifs au coronavirus, des allégations niées en début de semaine par le ministère chinois des Affaires étrangères. Pour en savoir davantage, Arzuma Compaoré a joint à Guangzhou un ressortissant congolais dont l'identité ne sera pas dévoilée par souci de sécurité. Il explique comment lui et d'autres Africains ont subi des tests abusifs de Covid-19 et ont été forcés à demeurer en quarantaine.
Nous, les Africains, nous étions en train de subir beaucoup de discriminations au moment où on ne pouvait plus prendre même certains taxis. Tu sens que les gens te donnent beaucoup d'espace, ils ne veulent pas s'approcher de toi. Et même dans les ascenseurs, tu ne peux pas monter les ascenseurs avec les Chinois. Donc, la discrimination se faisait déjà sentir avant que la mesure de la quarantaine ne soit mise en place. on a été forcé de passer au test de coronavirus. Et après les tests, on a été aussi forcé à être confiné chez nous pour 14 jours.
Vous avez personnellement été obligé de faire un test de COVID-19. À la suite du test, qu'est-ce qu'on vous a dit?
On n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles. Comme j'essaie de me renseigner auprès des autres Africains aussi, il n'y a pas eu de... Les personnes que je connais, quoi, elles aussi n'ont pas reçu de nouvelles. Bon, c'est presque une semaine que je suis en quarantaine. On est obligé de rester à la maison. Nos portes sont scellées. On ne peut pas sortir. J'ai une caméra devant ma porte. Donc, du coup, je suis bloqué chez moi. Je ne peux pas sortir. C'était l'une des conditions parce que l'idée première était d'emmener tous les Africains dans des hôtels. Comme ça, ils vont facilement les contrôler là-bas. Mais moi, je me suis opposé à cette idée de quitter mon appartement pour l'hôtel. Et du coup, ils m'ont dit, comme tu ne veux pas quitter, tu ne dois pas aussi quitter ta chambre. Et on va mettre une caméra devant ta porte.
Qu'est-ce qui vous dit que bon, les Africains sont ciblés dans cette histoire?
J'ai un cousin qui est français. Lui, il n'est pas concerné par la mesure. Il peut sortir. Je connais une Russe, elle n'est pas concernée. Je connais pas mal de gens non-africains qui ne sont pas concernés. On leur posait des questions, genre, c'est absurde. Pourquoi vous nous mettez en quarantaine sans pour autant nous signaler? Et la réponse qu'ils donnaient est que en Afrique, c'est devenu maintenant... En Afrique, maintenant, il y a beaucoup de cas. Mais on leur pose la question, pourquoi? Et genre, si en Afrique, il y a beaucoup de cas, c'est là quoi faire avec nous qui sommes ici en Chine, qui sont restés ici. Oh, c'est la loi, tous les Africains doivent être en quarantaine. Ça, c'est...
Comment est-ce que les autres Chinois eux-mêmes réagissent par rapport à cette mise en quarantaine?
Parlons des Chinois, je pense que les opinions sont partagées. Il y a certains qui sont pour leur gouvernement, il y a d'autres qui voient que la manière d'agir du gouvernement n'est pas tout à fait normale. Parce qu'il y a même des vidéos qui circulent où certains Chinois déplorent cette manière d'agir. Et ils disent, si vous traitez les gens comme ça, est-ce que s'ils faisaient la même chose dans leur pays, est-ce que nous, on serait contents? On ne sera pas content du tout. Et parlant de médias chinois, ici, c'est le gouvernement qui est autoritaire. Donc, tout ce qu'ils font, ce n'est que pour encourager et appuyer la mesure que le gouvernement a prise. Ils ont pu chercher certains, genre de nos frères africains, je ne sais pas, on les a corrompus ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a motivé ces frères africains à témoigner, soi-disant, on est à l'aise, je n'ai pas subi des discriminations. Bon, je ne sais pas aussi réfuter ça ou appuyer, mais je ne pense pas qu'il y ait des Africains qui n'ont pas subi de discrimination.
Un ressortissant congolais au micro d'Arzuma Compaoré.
Abdourahman Dia avec vous. Washington Forum revient cette semaine depuis la maison pour cause de COVID-19 et nous allons discuter justement des mesures de restriction allant jusqu'au confinement, voire l'état d'urgence dans certains pays pour stopper la propagation du COVID-19. Dans d'autres pays, les autorités vont même jusqu'à utiliser la géolocalisation grâce au smartphone pour, disent-elles, une meilleure traçabilité des personnes ayant testé positif au coronavirus. Certaines organisations de défense des droits humains jugent ces mesures excessives. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les Africains se sont aussi dit victimes de discrimination et de xénophobie dans la région de Canton, en Chine. L'accès des commerces et des hôtels leur est refusé et certains ont du mal à trouver un logement. Bagassi Koura a recueilli le témoignage d'Abdoul Ouedraogo, un étudiant burkinabé à Canton. Il explique que seuls les Africains ont été mis en quarantaine ces derniers jours, mais pas les autres communautés.
Bon, je pense bien que ça a commencé depuis le 5, comme ça, je pense bien, le 5 avril. Autour du problème, il y a eu des fausses rumeurs quoi, qui sont concernant la communauté africaine du Guangzhou.
Des rumeurs telles que quoi?
Donc, soit déjà, il y a eu beaucoup d'Africains contaminés. Donc, les Chinois devaient se méfier des Africains. Donc, tout est parti de là, en fait. Quoi. Donc, depuis que ça a eu, les Chinois qui ont commencé à avoir peur des Africains. Et il y a eu aussi des rumeurs, soit déjà, des Nigériens avaient fui de leur hôtel, ils étaient en quarantaine. Et puis, bon, après, ça, on a dit que ça aussi, c'était pas vérifié, c'était faux. Donc, ça fait que les jours qui ont suivi, les Chinois ont dû prendre des décisions de façon unilatérale. Hein. Quelqu'un a commencé à chasser les étrangers, les appartements. Et puis bon, les hôtels aussi étaient un peu réfractaires. Tu ne pouvais pas avoir accès aux hôtels.
Vous connaissez des Africains qui ont subi des violences physiques?
Bon, des violences physiques, non. Mais c'est plus ou moins le refus de tout ça, comment on appelle ça,
de louer les maisons.
Voilà. Et puis également le refus de pouvoir dormir dans les hôtels, voilà, c'est ça plus ou moins, que les lieux de commerce et tout, qui n'ont pas vraiment de violence physique. Donc avec les réunions et tout, je pense que comme maintenant tout le monde est en quarantaine, bon, je pense que la situation s'est un peu atténuée.
Alors, tout le monde est en quarantaine, c'est tout le monde ou c'est juste les Africains?
Bon, apparemment, c'est juste les Africains quand même. C'est juste les Africains.
Donc,
tout le monde parle de la société africaine, quoi.
Donc, à Guangzhou, les autorités chinoises ont décidé de mettre les Africains en quarantaine, mais pas forcément les autres communautés.
Non, plus les Africains quand même, les Africains.
Et comment ça se passe? On vient, on vous enferme chez vous. Comment ça se passe concrètement?
Bon, il y a des gens qu'on a enfermés chez eux. Mais ceux qui habitent à plus de 2 ou 3 dans les appartements, ils ont été amenés dans les hôtels. Ils ont dû choisir le préalable par l'État chinois. Donc, on a mis les gens dans les hôtels et tout. Il y a aussi qui ont été enfermés dans leur domicile.
Et à la sécurité à la porte?
Oui, à la sécurité à la porte. Oui. On prend la température 2 fois par jour et tout, il y a la sécurité à la porte. Et quand tu rentres, tu signes les papiers, tu connais déjà le jour où tu dois finir ta quarantaine, donc tu dois pas essayer de sortir avant ce jour, quoi. Il y a plus ou moins un plan de communication, c'est ça que les gens ont vraiment déploré. Et puis bon, les gens sont des filles, il y a d'autres nationalités, d'autres étrangers, et que c'était un problème qu'on voulait résoudre. C'était mieux de mettre tout le monde quand même en quarantaine. De choisir juste
les Africains.
Les Africains, non, il fallait carrément mettre tout le monde. Parce que les étrangers se côtoient dans les mêmes lieux et tout.
Abdoul Ouedraogo, étudiant burkinabé à Canton, joint par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La pandémie de coronavirus a généré une pénurie planétaire de masques, incitant nombre de stylistes et autres professionnels du textile à en confectionner dans l'urgence. Suite à une commande d'ONG, la couturière ivoirienne Manama Kone s'est lancée dans la production de masques chirurgicaux classiques, mais également de modèles assortis à ses créations d'ensemble pagne. Nathalie Barge l'a jointe à Gettysburg, dans le Maryland.
À cause de la situation actuelle, j'ai vu que les gens étaient en manque, et puis bon, l'idée m'est venue comme ça, de commencer à les faire en pagne. Étant à la maison, j'imaginais comment je peux confectionner pour aider, parce que j'avais quand même quelques pagnes sur moi à l'atelier, mais je ne pouvais pas sortir à cause de la peur. Il y a quand l'ONG m'a contacté qu'ils en ont besoin pour les données jaunes. D'abord, elle m'a dit que c'était d'abord pour des policiers. Et puis après, bon, vu que c'était une ONG qui faisait un peu les données jaunes dans l'étude médicale. Donc, ça m'a intéressé. Mais pourquoi pas, sur à la maison, si je peux aider des gens, pourquoi pas?
Alors, vous confectionnez des masques traditionnels, on va dire, pour le milieu hospitalier. Et vous faites également, comme vous l'avez dit, des masques avec des motifs donc de tissus africains. Est-ce que vous avez donc des commandes de particuliers, notamment?
Oui. Mm-hmm. J'ai des commandes aussi pour des jeunes. Une dame, elle a son agence de nurse. Ils en ont besoin. Elle aussi, elle m'a commandé. Et puis les particuliers aussi. Quand je sors quelquefois, quelques rares fois que je sors, bon, tel que je suis habillée aujourd'hui, quand je mets une tenue, je mets aussi le masque, donc à sortir avec le masque. Donc ça fait que les gens commencent à s'intéresser beaucoup. Puis bon, les commandes commencent à tomber.
Alors, combien en avez-vous confectionné jusqu'ici, hein?
J'en ai d'abord pour l'ONG, la première commande c'était 100. Là encore, j'ai un lot de 200 encore. Et puis là, pour la dame, comme je dis, elle a son elle, d'argent de nurse. Là, elle m'a demandé, pardon, 300 max.
Donc l'ONG dont vous parlez va vous en commander d'autres encore?
Oui, parce que ça rapidement, dès que j'ai fini le premier lot, elles m'envoient les lots de 200.
Et vous travaillez seule pour l'instant? Ça prend combien de temps environ pour faire un masque?
Ça dépend des modèles. Il y a des modèles qui prennent un peu plus de 10 minutes. Il y a d'autres qui prennent un peu plus de 20 minutes.
La styliste de mode ivoirienne Manama Kone. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seguldia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.